Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Effie et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition du live de Radio Bossier. Aujourd'hui, toute l'équipe et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour parler actualité, art et vie du lycée. Merci aux anciens comme aux nouveaux auditeurs d'être avec nous. Pour commencer, dans notre rubrique « L'invité du live », Mélina a eu l'occasion de s'entretenir avec Madame Germani, enseignante en art plastique au lycée. Elle nous parlera de l'intérêt des arts plastiques et de l'importance de développer sa créativité. Ensuite, Léna, Mélène et Nisrine nous feront revivre la course Odyssea qui a eu lieu le 18 octobre dernier pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Elles partageront des témoignages des participants ainsi qu'un mot de Madame Faust, l'organisatrice de cet événement solidaire. Pour continuer, nouvelle rubrique cette année, on se décarbone. Aujourd'hui, Léna et Mélène nous parleront de l'importance du recyclage avec l'aide des éco-délégués du lycée. Vous allez découvrir comment le recyclage prend vie au quotidien au sein de notre établissement. Pour notre chronique Géopoliticus, Lucie nous éclairera sur les récentes élections aux États-Unis, un sujet qui fait l'actualité et dont les résultats pourraient influencer le monde entier. Dans le petit journal de la culture, nous avons un programme varié. Toine nous parlera de l'univers du film Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve. Noémie nous fera découvrir une bande dessinée dédiée à la résistante Madeleine Riffaut. Et Lola nous transportera aux rencontres de la photographie, un événement incontournable qui se tient chaque été près de chez nous. Enfin, pour clôturer l'émission, nous retrouverons notre En Bref avec Arthur, qui vous informera sur les événements à venir au lycée et les dates importantes à noter. Sans plus tarder, écoutons notre premier invité. Je laisse la parole à Mélina et Madame Germani pour nous parler d'art plastique.
Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique L'invité du live. Pour le tout premier live de l'année, j'ai le plaisir d'interviewer Madame Germani.
Bonjour.
Professeur d'art plastique dans notre lycée. Nous allons aujourd'hui discuter des événements à venir et explorer ensemble le rôle essentiel de l'art plastique au lycée. Tout d'abord, est-ce que le lycée prévoit d'organiser des événements liés aux arts plastiques au lycée ?
Oui, alors on va reprendre. Alors il faut savoir qu'on est deux enseignantes en art plastique au lycée Bossier avec Madame Lévy. Et cette année, on a en prévision, là, dès le mois de janvier, on va avoir une exposition où on va exposer des œuvres en partenariat avec le fonds TPM de la Villa Tamaris, des œuvres qui appartiennent à la collection de la TPM autour d'une problématique liée à la question de l'image. Donc ça va s'appeler une certaine idée de réalité. Et c'est une exposition qui va durer près d'un mois et qui va nous permettre aussi de faire de nos élèves des médiateurs, des passeurs culturels et de recevoir, comme on l'a fait l'année dernière, des classes, des écoles de proximité, des classes de primaire, enfin d'écoles primaires, et aussi des collégiens qui seront nos futurs lycéens. Donc ça, c'est vraiment ce qui se profile dans un horizon assez, assez vite. Et ensuite, on va recevoir aussi cette année, on a trois artistes intervenants. Un qui va réaliser avec nos classes de seconde option une fresque qui va être une ode à la nature sur le mur. Alors ça, c'est bien parce que c'est un travail qui va se faire in situ. Sur le mur de la cantine, sur le mur extérieur. Donc c'est un travail qui va se faire avec les élèves de seconde, mais qui va être au vu et qui va se faire en live, quoi, donc sur une semaine. Et puis deux autres artistes qui vont intervenir, et notamment avec une interdisciplinarité aussi avec les sciences, puisqu'il y a une artiste qui va travailler avec de la teinture autour de la thématique de la teinture végétale, de faire du jardin un outil presque pour en tirer de la couleur. Et une autre artiste qui va venir travailler avec nos classes de terminale et de première, de spécialité et option, sur la question aussi de l'image, avec une pratique. C'est une artiste qui a fait les Beaux-Arts de Dijon et qui a une pratique, vraiment son médium de prédilection, c'est la photographie, et notamment des pratiques anciennes de photographie. Donc on a une année riche qui se profile.
D'accord. Maintenant, je vais changer de domaine. C'est plus au sujet du futur des élèves. Quelles sont les formations vers lesquelles les élèves ayant fait la spécialité ou l'option art plastique s'orientent généralement ?
Alors généralement, bon, souvent ce qu'ils visent, ce sont des écoles d'art. Donc on a des élèves qui sont partis aux Beaux-Arts de Toulon, aux Beaux-Arts de Nice. Il y a aussi des élèves pour tout ce qui est art visuel, design, architecture. On a des élèves qui ont été reçus à Lumini, dans des écoles d'architecture vraiment très spécifiques. Et puis aussi, il y a des élèves qui ne vont pas forcément poursuivre dans une scolarité vraiment uniquement liée aux arts plastiques, mais qui peuvent aussi s'orienter vers des sciences sociales, parce que c'est aussi avoir du recul sur l'image, sur la création en général. Et voilà. Mais plus particulièrement, ça reste des parcours artistiques, principalement, mais pas uniquement, loin de là.
Ok, maintenant je vais plus poser une question d'ordre général. C'est dans quelle mesure les arts plastiques ont un impact positif sur les élèves ?
Alors ça, qu'est-ce que ce serait bien si on pouvait mesurer ce genre de choses, ce serait absolument formidable. Ce qui est certain, c'est que je pense que la complexité du monde fait que les arts plastiques, ça me paraît, on l'a vu pendant la période du Covid, hein, ce qu'on a appelé les choses non essentielles, à quel point finalement c'était peut-être celle dont on avait le plus besoin, dont on était le plus en manque, hein, le cinéma, le théâtre, la littérature, enfin d'avoir les librairies fermées, les musées fermés, à quel point ça a été une frustration et un véritable manque. Donc en fait, je crois que c'est absolument essentiel pour développer la sensibilité artistique et puis pour affronter aussi la complexité du monde, parce que les arts plastiques, c'est une manière de penser le monde. Et il est certain qu'avoir un regard sur les choses, les arts plastiques de façon générale, justement, c'est pas quelque chose de binaire, c'est pas juste ou faux. Et ça permet aussi de se confronter à ce qui échappe à la norme, à ce qui échappe à la règle, et d'avoir un recul critique. Donc je pense que ça, les élèves ont tout à gagner à avoir cette sensibilité qui donne, je trouve, beaucoup de force pour être au monde, tout simplement.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Germani, c'était très intéressant. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de l'Invité du Live.
Merci Mélina et Madame Germani pour cette belle introduction à l'univers des arts plastiques au lycée. Passons maintenant à notre micro-trottoir spécial sur la course aux lycéens. Léna, Mélène et Nisrine nous plongent dans l'ambiance de cet événement sportif et solidaire avec des témoignages d'élèves et de Madame Faust, l'organisatrice. On écoute.
Madame, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que la course Odyssea et en quelle faveur court-on ?
Alors, bonjour. Donc, Odyssea, c'est une association qui monte des marches ou des courses qui soutiennent la lutte contre le cancer du sein. Alors, c'est la volonté de faire du sport un outil de prévention pour la santé. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est la vague rose qui déferle sur Beaussier. Alors, les dons d'Odyssea servent à soutenir la lutte contre le cancer du sein, principalement l'hôpital Gustave Roussy, qui est à la pointe de la recherche. Donc, il y a un chèque de 1 million d'euros qui vient d'être versé par Odyssea Paris. Et puis, le lycée Beaussier peut être fier d'avoir apporté une petite pierre à cet édifice.
Super. Et combien de participants avons-nous aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, nous avons 320 inscrits au lycée Beaussier. Se rajoutent à ça 90 élèves de Curie, 60 élèves de Vallon et 50 élèves de l'Herminier. Je crois qu'on peut dire que c'est une belle réussite.
Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons interviewer Malcolm, donc il va se présenter. Donc, présente-toi, Malcolm.
Bonjour, je m'appelle Malcolm, je suis élève en terminale STMG. Je suis dans la filière Les Cordées de la Réussite. Cette filière, elle permet à tous les jeunes qui ont des difficultés pour intégrer des écoles de sport. Et aujourd'hui, on a participé à Odyssea. On les a aidés à préparer l'organisation et à mettre en œuvre tout ça.
Merci beaucoup. Dans le cadre de la course, on interview Raphaël, qui est un élève.
Bonjour. Du coup, moi, je m'appelle Raphaël Massé, j'ai 16 ans. Je suis un élève de Terminal 6. J'ai eu envie de faire la course parce que j'ai une amie à ma mère qui est touchée par le cancer du sein. On l'a découvert cette année et tout. Donc, je me sentais un peu obligé parce que c'est quand même une amie proche de moi, etc. Et aussi pour toutes les jeunes femmes dans le monde qui souffrent. Il n'y a pas que elles. On pense à toutes les femmes qui souffrent de ça chaque année et qui veulent ça dure toute leur vie, etc. Mon ressenti, en vrai, je suis plutôt content. Je vois, il y a du monde et tout comparé à l'année dernière. Il y en a beaucoup plus. On a eu des collégiens et tout. Là, ça me fait plaisir que de voir, il y a autant de gens qui se bougent pour ça. Moi, je pense qu'il y a une autre raison aussi pourquoi ils se bougent, mais pas, j'espère que c'est bien celle du cancer du sein. Et donc, et voilà, moi, je suis fier de porter le meilleur rose aujourd'hui et de courir, quoi.
Merci.
Un grand merci à notre équipe sur le terrain, ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont participé et soutenu cette cause importante. Laissons place à notre nouvelle rubrique, on se décarbone. Léna et Mélène, c'est à vous. Nous voulons tout savoir sur le recyclage.
Bonjour à tous, c'est parti pour cette nouvelle rubrique du live consacrée au développement durable. À chaque fois, on vous expliquera dans On se décarbone, de la manière la plus simple possible, un concept lié au développement durable. Puis, nous l'illustrerons par une initiative mise en œuvre par les éco-délégués du lycée.
On démarre avec la notion de recyclage.
Alors, c'est quoi le recyclage ?
Le recyclage, c'est un procédé de traitement des déchets qui permet de réintroduire certains matériaux dans la production de nouveaux produits. L'objectif est de réduire la quantité de déchets envoyés en décharge, de préserver les ressources naturelles, mais aussi de limiter l'impact des productions des matériaux sur l'environnement. Il se décompose en quatre étapes principales. La collecte. C'est l'étape où les déchets recyclables sont collectés dans les bacs de tri spécifiques ou dans des centres de collecte. Le tri. C'est l'étape où les matériaux sont triés par type, plastique, papier, métal, verre, etc. Il peut se faire manuellement ou à l'aide de machines. Le traitement, qui consiste à nettoyer les matériaux triés pour enlever leurs impuretés. Et puis, la transformation des matériaux recyclés en matières premières secondaires qui serviront à fabriquer de nouveaux produits. Par exemple, les bouteilles en plastique peuvent être transformées en fibres textiles qui servent à fabriquer les vêtements que l'on porte. Mais alors, pourquoi recycler ?
Premièrement, pour préserver les ressources naturelles. En effet, quand on recycle, on diminue le besoin d'extraire de nouvelles matières premières comme le pétrole, les minerais ou le bois. Ensuite, c'est un avantage du point de vue de l'économie d'énergie. Le recyclage utilise souvent moins d'énergie que la production à partir de matières vierges. Par exemple, fabriquer une canette en aluminium recyclé consomme beaucoup moins d'énergie que d'en produire une à partir de minerais bruts. De plus, cela réduit les déchets. Il permet de diminuer la quantité de déchets envoyés au site d'enfouissement et incinérateur, ce qui aide à limiter la pollution de notre planète. Enfin, il diminue l'empreinte carbone. En réduisant la production et en limitant les déchets, on contribue également à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le recyclage est donc une étape clé dans la gestion durable des ressources et dans la protection de notre environnement.
Maintenant, nous allons mettre en lumière une initiative des éco-délégués qui illustre cette notion du recyclage. C'est la friperie du lycée. Elle est gérée notamment par Romane, que nous sommes allés rencontrer.
Alors bonjour Romane.
Qu'est-ce que la friperie donc ?
La friperie que je tiens au lycée, c'est une éco-friperie. En fait, le principe, c'est que les gens emmènent leurs vêtements. On prend pas que les vêtements, on prend aussi les accessoires, donc tout ce qui est sac, chapeau. On prend les chaussures, on prend les bijoux et on prend aussi des livres. Et j'ai des gens qui vont emmener des peluches, donc techniquement, on prend aussi des peluches. Et en fait, c'est quand une personne emmène un vêtement, en échange de chaque vêtement, je lui donne un ticket, sauf pour les livres, ou en échange d'un livre, je lui donne un ticket, mais qui est rose cette fois-ci. Et avec ce ticket, il peut prendre tout ce qu'il veut dans la... Il peut l'échanger contre une autre chose de la friperie. Et du coup, c'est pour faire une sorte de cycle, pour éviter que les gens ils jettent leurs vêtements qu'ils mettent plus. Et aussi, l'éco-friperie, elle est pratique. Je sais que l'infirmière s'en est déjà servie auparavant. Parce que pour les élèves, par exemple, qui n'ont pas forcément les moyens, ils pouvaient venir chercher des vêtements ici.
Et quand est-ce qu'elle est ouverte ?
Moi, je l'ouvre le lundi, de 11h à 13h, ou de midi à 13h. Et le jeudi de midi à 14h.
Bravo pour cette initiative. N'hésitez pas à aller rencontrer Romane et à participer à la vie de la friperie. On peut également souligner une autre initiative des éco-délégués. Ce sont les poubelles de tri dans la cour installées depuis l'année dernière. Voilà, On se décarbone, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt avec un autre concept à mettre en lumière pour être plus attentif à l'avenir de notre environnement. Ciao.
Merci à tous pour ces précieux conseils. Recycler est essentiel pour réduire notre empreinte écologique. C'est un bel engagement de la part de notre lycée qu'il faut soutenir. À présent, plongeons dans la géopolitique avec Lucie pour mieux comprendre les résultats des élections aux États-Unis. Lucie, on t'écoute.
Merci Effie. Effectivement, Géopoliticus voulait revenir sur un sujet qui a largement occupé les esprits et qui continuera à le faire dans les mois qui viennent. Je veux parler évidemment des élections présidentielles américaines. Vous le savez certainement, les votes ont permis la victoire de Donald Trump du Parti républicain face à sa rivale Kamala Harris du camp démocrate. À chaque élection présidentielle, on remarque que les campagnes s'articulent principalement autour de l'opposition de ces deux groupes politiques, ne laissant que très peu de place aux autres partis. Mais alors pourquoi n'y a-t-il que deux grands partis politiques aux États-Unis ? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord évoquer le système électoral américain qui limite l'émergence des autres partis. Pour rappel, lors des élections, le candidat en tête dans un État remporte tous les sièges au Congrès et les grands électeurs de cet État, et non un nombre proportionnel au suffrage qu'il a obtenu. Ce sont les grands électeurs qui élisent ensuite le ou la future présidente-présidente. C'est le principe du winner take all. Pourtant, certains électeurs préféraient voter pour l'un des third parties, l'ensemble des partis minoritaires comme le Green Party, écologiste ou le Parti libertarien. Mais voter pour un parti faible reviendrait à gâcher son bulletin, car ils savent que ces partis n'ont que très peu de chances de gagner. Par ailleurs, faire campagne pour la présidence et le congrès dans chaque État demande énormément d'argent, ce qui freine l'influence des petits partis. Pour financer leur campagne, les candidats recourent massivement à des dons privés, notamment grâce aux super comités d'action politique, les super PAC, des organisations indépendantes qui offrent aux candidats leur soutien grâce aux dons illimités des citoyens. À l'été 2024, lorsque Joe Biden s'est retiré des élections, l'engouement autour de la nouvelle candidate Kamala Harris lui a permis de récolter un total d'1,5 milliard de dollars contre 1 milliard de dollars pour Donald Trump. Mais ce système, accusé de porter atteinte à la démocratie, est parfois critiqué. Comme les super PAC ne sont pas liés officiellement à la campagne, ils sont très souvent facteurs de fake news et ce principe de don illimité affaiblit profondément les possibilités qu'un troisième parti se fasse entendre. De fait, contrairement à la France, il n'y a pas de régulation et de droit de parole dans les médias américains. Donc ce sont les candidats qui ont le plus d'argent qui sont le plus représentés, notamment dans les médias où ils achètent de nombreuses campagnes de publicité. Par conséquent, beaucoup de petits partis, par manque de moyens, sont quasiment inconnus des citoyens. Cela n'est pas du tout le cas en France, où tous les partis ont un temps de parole et de visibilité équivalent. Enfin, même au sein des deux partis, il n'y a pas vraiment eu d'alternative sérieuse aux deux grands candidats. Bien qu'une fracture se soit créée au sein des Républicains, l'absence de candidats crédibles a laissé la voie libre à Donald Trump qui a trumpisé le parti, comme le notent certains analystes politiques. Idem du côté des démocrates, Joe Biden s'étant retiré très tard de la campagne, le parti n'a pas eu le temps d'organiser des primaires pour désigner un candidat et s'est tourné vers la vice-présidente Kamala Harris qui, si elle n'a pas démérité, est sans doute partie trop tard en campagne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. On se dit à bientôt dans le prochain live de Radio Bossier pour un nouveau numéro de Géopoliticus.
Merci Lucie pour ce point détaillé. Les élections américaines sont toujours un moment décisif et il est important d'en saisir les enjeux. Côté culture, place maintenant à Toine, Noémie et Lola dans notre petit journal. Ils nous parlent aujourd'hui de trois formes d'art, cinéma, bande dessinée et photographie. On commence avec Toine, nous t'écoutons.
Bonjour à tous, je suis ravi d'inaugurer cette chronique cinéma avec vous. L'idée n'est pas de parler d'un film qui vient de sortir et d'en faire une critique, mais plutôt d'évoquer un film marquant de l'histoire du cinéma en partageant avec vous les réflexions qu'il soulève et bien sûr de vous donner envie de le voir. Pour démarrer, je vais faire plaisir aux amateurs de science-fiction, mais aussi aux autres j'espère, puisque j'ai choisi de parler de Blade Runner 2049, film réalisé par Denis Villeneuve et sorti en 2017. Blade Runner 2049 est un film visuellement étonnant qui constitue une sorte de suite du classique de science-fiction Blade Runner de Ridley Scott, réalisé en 1982. Situé dans un futur dystopique, le film suit le personnage de K, interprété par Ryan Gosling, un réplicant qui occupe les fonctions de Blade Runner, c'est-à-dire d'un humain artificiel chargé de traquer les anciens modèles de réplicants. Lorsque K découvre un secret qui pourrait bouleverser l'équilibre entre les vrais humains et les humains créés par bio-ingénierie, les choses se compliquent. Avec son esthétique visuelle très travaillée, sa bande sonore immersive et ses thèmes philosophiques profonds, Blade Runner 2049 explore la nature de l'humanité et la question de l'identité. Ce qui m'a frappé dans ce film, c'est la lutte de K avec sa propre existence, qui soulève des questions profondes sur ce que signifie être vivant. Le transhumanisme est au cœur du film. En effet, dans le monde de Blade Runner 2049, la division que nous faisons traditionnellement entre l'animal et humain se brouille, puisque ces deux catégories forment un ensemble qu'on oppose désormais aux androïdes. Le film nous invite donc à réfléchir au type d'humain que nous aimerions voir naître dans quelques décennies. Un transhumain cousin des robots ou bien un animal en chair et en os. Nous sentirons-nous plus proches de l'androïde aux capacités cognitives fulgurantes ou de l'animal faillible, émotif et plus que tout mortel. En conclusion, Blade Runner 2049 n'est pas seulement un film de science-fiction, c'est une exploration philosophique de ce que signifie un être humain, dans un monde où la technologie redéfinit notre existence. Il s'impose comme un film vraiment important de la science-fiction, et il est disponible sur toutes les bonnes plateformes, tout comme Blade Runner de 1982. Alors n'hésitez pas à le visionner, car la question de l'IA est plus que jamais d'actualité. A très vite pour une nouvelle réflexion cinématographique.
Merci Toine, la parole est maintenant à Noémie pour la littérature.
Bonjour à tous, c'est parti pour la première chronique dédiée à la littérature sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée que j'ai adorée. La bande dessinée Madeleine Résistante est une série en 3 tomes qui retrace la vie de Madeleine Riffaut en tant que résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle nous a malheureusement quittés mercredi dernier, le 6 novembre, à l'âge de 100 ans. C'est un repos bien mérité après ces années de courage et une fin de vie compliquée. Le scénariste Jean-David Morvan a travaillé en étroite collaboration avec le dessinateur Dominique Bertaille en s'appuyant sur les témoignages de Madeleine pour donner vie à ce projet édité par les éditions Dupuis. Le premier tome relate son enfance et son entrée dans la résistance, les suivants son engagement. La BD plonge donc le lecteur dans la France occupée durant la Seconde Guerre mondiale. Madeleine, qui s'engage rapidement, mais parfois avec difficulté dans les réseaux de résistance, incarne le courage et la détermination face à l'oppression nazie. Ce récit s'inscrit dans un contexte où de nombreuses femmes ont joué un rôle crucial dans la résistance, souvent méconnue. La bande dessinée souligne leur engagement à travers des missions de renseignement, de sabotage et d'aide aux réfugiés. L'œuvre se distingue par son choix de rendre hommage à ces femmes, en mettant en avant leur bravoure dans un milieu historiquement dominé par des figures masculines. Madeleine Riffaut, qui a longtemps hésité à s'engager dans ce projet, ajoute avoir le devoir de transmettre son histoire aux nouvelles générations pour ne pas qu'on oublie l'histoire. Un des détails qui m'a sauté aux yeux est la couleur utilisée par le dessinateur. En effet, toutes les planches sont bleues, avec des nuances bien sûr, mais sans aucune autre couleur. Pourquoi une BD bleue ? Le dessinateur explique « On retrouve le bleu dans un texte de Madeleine qui écrivait parfois ses sensations. Elle parle de regret bleu. » Pour le choix du bleu, il y a aussi les approches poétiques et techniques. C'est un bleu très particulier, tout à l'aquarelle. Le bleu peut aller vers le très sombre jusqu'au noir, et à l'opposé du camailleux, il se fait parfois très aéré et lumineux quand il est clair. Cela apporte une cohérence à l'album. « Je ne pouvais pas travailler en couleur », confie le dessinateur. Pour lui, des passages importants du scénario se trouvent pendant l'insurrection et la libération de Paris en juin 1944. C'est une période de canicule, le ciel est bleu. Utiliser des couleurs n'aurait pas correspondu à l'ambiance de la ville ni du pays en souffrance. La couleur aurait été en contradiction avec la dramaturgie. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous rappelle les références « Madeleine résistante » de Jean-David Morvan et Dominique Bertaille. Les trois tomes sont disponibles au CDI, n'hésitez pas à les emprunter. Je vous laisse en vous souhaitant une bonne lecture.
Merci Noémie. À présent, direction Arles et l'univers de la photo avec Lola.
Bonjour à tous, moi c'est Lola et je vais revenir sur la dernière sortie que nous avons effectuée avec le groupe de spécialité arts plastiques. En effet, en septembre dernier, nous sommes allés à Arles avec notre professeur Madame Germani et nous avons eu la chance de nous rendre à la Tour Louma, étonnant bâtiment qui accueille certaines des expositions du festival Les Rencontres de la Photographie d'Arles. La fondation Louma, basée à Arles donc, a été fondée en 2004 par Maja Hoffmann, collectionneuse d'art suisse, avec l'objectif de soutenir les artistes contemporains. En 2013, la Fondation a entrepris le projet ambitieux de construire dans le parc des ateliers d'Arles un site industriel réhabilité, un nouveau bâtiment destiné à accueillir du public. Ainsi a été créée en 2021 la Tour Louma, conçue par l'architecte Franck Guéry, qui a entre autres signé la Fondation Louis Vuitton à Paris. La tour devient un symbole de la Fondation, intégrant à la fois des espaces d'exposition, de recherche et de résidence pour les artistes. Cette année, c'est l'artiste Philippe Parreno qui a marqué le site avec une installation immersive exploitant des éléments robotiques et des sons autonomes. C'est donc lors de notre visite à la Tour Louma que nous avons plongé dans un univers riche en créativité et en innovation avec cette installation intitulée « No More Reality ». Bon, comme c'était une exposition immersive, difficile de la décrire, mais je vais quand même vous en dire deux mots. L'installation explorait des interactions entre technologie, perception et environnement dans un espace nommé Danny, qui s'inspire de Danny the Street, un personnage issu de comics et capable de s'adapter magiquement à n'importe quel environnement. Parreno a imaginé Danny comme un automate connecté, où des éléments comme un bassin d'eau, un rideau en miroir et un système sonore robotisé se synchronisent en temps réel pour réagir aux données du lieu. Ce fameux Danny rentrait ainsi en contact avec les spectateurs dans une chorégraphie d'art et de technologie sans fin. La visite à la Tour Louma à Arles m'a véritablement captivée. L'installation de l'artiste Philippe Parreno m'a permis d'explorer des perspectives nouvelles sur l'image et la mémoire. Cette expérience m'a convaincue que la photographie est un miroir de notre société et que ce médium artistique est un perpétuel mouvement, puisque là, nous n'étions pas face à des photos classiques, mais immergés dans un monde de sensations. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la prochaine fois pour découvrir de nouveaux artistes et des lieux d'exposition.
Merci Lola et merci à vous trois pour ce point culture. Pour conclure notre émission, nous passons au « En bref » de Arthur. On l'écoute pour tout savoir sur les actualités et événements à venir au lycée.
Il s'est passé plein de choses en novembre. Le jeudi 7 novembre s'est déroulée la journée nationale de lutte contre le harcèlement et un mur d'expression ainsi que des pancartes ont été exposés dans la cour avec un franc succès. Dans la foulée, les ambassadeurs harcèlement, à qui vous pouvez vous adresser à tout moment, ont reçu une formation pour pouvoir répondre et agir au mieux. N'oublions pas le slogan « Ton problème, c'est mon problème ». Le jeudi 14 novembre, les filles de seconde 13 se sont rendues à la base navale de Toulon accompagnées de Madame Gallo. La sortie s'est faite en partenariat avec l'association « Elle bouge ». L'idée est de mettre en avant les filles dans les métiers scientifiques. Cette même semaine, la classe de seconde 05 dite « Bimère », une classe de sensibilisation aux métiers de la mer, nouvellement ouverte au lycée, s'est rendue au forum d'action navale organisé par la marine. Lundi 18 novembre s'est déroulé le plan particulier de mise en sûreté, ou PPMS, contre les inondations. On sait effectivement que l'adaptation au changement climatique et aux risques est aujourd'hui un enjeu central, avec lequel il va falloir composer de plus en plus souvent. Enfin, du 2 au 13 décembre, vous pourrez aller admirer l'exposition « La mer se décline au féminin » au CDI organisé par Madame Mourin et ses élèves. Voilà pour les nouvelles, ciao à tutti et à très bientôt pour un nouveau En Bref.
Et nous arrivons déjà à la fin de ce live. Merci à chacun de nos chroniqueurs et à l'équipe technique, sans oublier vous, chers auditeurs, d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Radio Bossier et nous vous en sommes très reconnaissants. On vous donne rendez-vous très bientôt pour notre prochaine émission et d'ici là, n'hésitez pas à aller jeter un œil à nos podcasts. Prenez soin de vous et à bientôt sur Radio Bossier.